Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Allez, on parle crypto-monnaie ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Les monnaies électroniques qui, malgré elles, se retrouvent dans la case des faits divers de l'actualité. En effet, les agressions visant des dirigeants de sociétés spécialisées dans les crypto-monnaies ne cessent de se multiplier en France. Rien que ce mois-ci, deux enlèvements ou tentatives d'enlèvement se sont produits en plein cœur de Paris. Alors avec les envolées, par exemple du Bitcoin, les porteurs de crypto sont effectivement devenus des cibles. D'où notre question ce soir. Face à ces convoitises, peut-on réguler les crypto-monnaies? Car ce qui fait la spécificité des crypto-monnaies, c'est que le mot régulation paraît bien relatif par rapport aux monnaies traditionnelles. Imposer un cadre peut-il permettre d'accompagner dans la durée les crypto-monnaies? Ou bien au contraire, les cryptos vivent-elles par leur volatilité? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités à mes côtés en studio, Jérôme Mathis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en économie et en finance à l'Université Paris-Dauphine PSL. Face à vous, Alexandre Stachenko, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de stratégie de Paymium, qui est une plateforme d'échange de Bitcoin, conférencier et co-auteur de plusieurs ouvrages, le dernier Bitcoin, le choc géopolitique. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Jérôme Mathis, cet enchaînement d'agressions que j'évoquais à l'encontre de dirigeants de sociétés spécialisées dans les crypto-monnaies. Alors, il y en a eu deux ce mois-ci, mais il y en a eu plusieurs depuis le début de l'année. Comment est-ce qu'on peut les analyser? Pourquoi est-ce que cela intervient, selon vous, maintenant?
Je pense que c'est corrélé à l'envolée des cours, et notamment l'envolée du cours du Bitcoin, hein, puisque le Bitcoin, en 2017, vous investissiez 1 000 euros. Aujourd'hui, vous aurez quasiment 100 000 euros. C'est-à-dire que le cours a été multiplié par presque 100. Donc, ça crée beaucoup de fantasmes, et du fantasme notamment de gens qui pensent que les entrepreneurs du secteur, parce que les enlèvements ou les tentatives d'enlèvement que vous évoquiez, c'était soit les proches, soit directement des entrepreneurs du secteur, pensent qu'ils sont nécessairement riches, comme si on pensait qu'un bijoutier, parce qu'il manipule des diamants dans son travail, en a nécessairement beaucoup chez lui. Maintenant, il y a quand même des raisons, je dirais, rationnelles, parce que les malfaiteurs, quand on voit le braquage de banque est devenu quasiment impossible, s'ils braquent des bijoux, des bijouteries, les bijoux, ils ont une décote énorme à la revente. Ça se revend à peu près 10 ou 20% de la valeur marchande. Or, si vous mettez la main sur des crypto-monnaies, il n'y a quasiment aucune décote. Donc là, c'est un petit peu le jackpot. Mmh. Et puis, une autre raison, je dirais, rationnelle, parce qu'il faut quand même voir que les malfaiteurs cherchent le gain maximal avec une prise de risque minimale, je dirais, c'est que s'ils procèdent à un enlèvement, lors de la rançon, lors de l'échange, ils peuvent s'attendre d'habitude à ce qu'il y ait des forces de police prêtes à intervenir. Eh bien là, l'échange peut se faire finalement à distance et la transaction peut se faire directement, quasiment en ligne. Donc, on est vraiment sur une prise de risque minimale. Il y en a une très énorme lors de l'enlèvement, mais par la suite, je pense que c'est moins risqué que pour d'autres échanges.
Il y a une forme d'opacité des crypto-monnaies. Alors, qui favorisent un petit peu ces malfaiteurs.
Par ailleurs, effectivement, alors des billets de banque, ils sont numérotés, ils peuvent être tracés. Ouais. Des bijoux de luxe, des voitures de luxe qui seraient volées, c'est pareil, il y a des numéros de série, ils peuvent être tracés. Ouais. Les crypto-monnaies aussi, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'on sait très bien tracer. Si je prends par exemple le cas du Bitcoin, la plus populaire d'entre elles, on sait exactement tracer les pseudonymes. C'est-à-dire vous avez un pseudonymat, vous échangez des bitcoins, on peut dire comment ils passent de quelle main en quelle main, mais qui se cache derrière le pseudonyme, c'est parfois très obscur.
Alors, Alexandre Stachenko, c'est intéressant parce que vous êtes le directeur stratégique de Paymium. Et précisément, mardi dernier, en plein cœur de Paris, l'une des deux agressions que j'évoquais, c'est le fondateur de votre plateforme qui a été visé. Sa femme ainsi que sa fille qui ont été victimes du tentative d'enlèvement.
C'est sa fille et son petit-fils.
Voilà, le petit-fils et la femme de... la fille de cet homme, pardon, victime d'une tentative d'enlèvement en plein Paris. Comment est-ce que vous réagissez à cela?
Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond. On est évidemment tous choqués par ce qui se passe. On prend les mesures de sécurité qui s'imposent et on espère que les pouvoirs publics vont prendre la mesure de ce qui se passe. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement travailler dans les cryptos pour considérer que ce n'est pas normal qu'on puisse avoir 5 ou 6 tentatives d'enlèvement dans un pays comme la France, où on espérait ne plus revoir ce genre d'actions violentes et de crimes organisés. Que évidemment, si ce genre de choses avait une forme de succès, ça pourrait donner des idées pour cibler d'autres gens que la crypto, et que donc du coup, c'est pas non plus juste un problème d'entrepreneurs crypto. Maintenant, pour contredire un petit peu ce qui a été dit juste avant, c'est que toutes les tentatives d'enlèvement qui ont été faites sur le sujet depuis le début de l'année, aucune n'a été couronnée de succès. précisément parce que les cryptos sont traçables, que dans un certain nombre de cas, elles sont même censurables, gelables. C'est le cas des stablecoins qui ont été, donc des monnaies stables, qui ont été exigées pour le cas de David Balan en janvier. Et les forces de police, en règle générale, sont plutôt très contentes lorsque les rançons sont demandées en crypto, parce que c'est bien plus traçable. Le fait que le cash ait un numéro n'en fait pas quelque chose de traçable. Si je m'en vais avec une valise de cash, vous ne me retrouverez pas.
Mais est-ce que vous diriez que le système des crypto-monnaies favorise ce genre d'agression, ce genre de d'attaques qui ont eu lieu?
Pas le système en tant que tel, les fantasmes qui sont véhiculés autour de ce système, oui, mais comme ça a été dit.
Mais ils ont la peau dure, peut-être, ces fantasmes.
Je le déplore et je parcours les médias pour essayer de changer l'opinion et la connaissance sur le sujet. Maintenant, malheureusement, il y a encore, et je l'ai vu chez une partie des médias la semaine dernière, ces fantasmes continuent d'être véhiculés. Ouais. On nous a parfois demandé sur des plateaux ceux qui commettaient ce genre de choses n'étaient pas nos clients ou nos concurrents. Comme si je me levais le matin tous les jours en allant couper des doigts à des gens. Donc en fait, on a un présupposé, parce qu'on travaille dans ce secteur-là, qu'on serait nécessairement riche, ouais. Ce qui est faux.
Et puis surtout le sentiment que parce que c'est très volatile, vous seriez à la limite de la légalité. C'est ça qui est sous-entendu dans ces questions que vous évoquez.
Il y a plein de choses qui sont volatiles et ça n'a rien à voir avec la légalité. Paymium, pour le coup, a fait de l'implantation en France et du respect de la loi une de ses caractéristiques fondamentales dans un secteur où, comme il est neuf, effectivement, dans les précédentes années, il y a pu avoir des plateformes à l'international qui respectaient très peu la réglementation. Mais c'est aussi un fantasme. Hein. En Europe, on ne peut pas opérer dans le monde crypto si on ne respecte pas la réglementation européenne.
Jérôme Mathis, autre fantasme qui peut-être explique ces événements qui succèdent en France et qui vont nous amener à poser la question de est-ce que face à cela, il faut plus réguler les crypto-monnaies. Est-ce que y a l'idée aussi que le Bitcoin, c'est de l'argent facile qu'on arrive à créer? Est-ce que par rapport à l'homme d'affaires qui va faire des études, qui va être un millionnaire parce qu'il prospère dans ses affaires, dans son business, il y a ce sentiment un petit peu de tout le monde peut s'enrichir grâce aux crypto-monnaies?
Oui, là encore, c'est un fantasme. Juste un point de réponse, il y a des crypto-monnaies comme Monero Zcash qui sont 100% anonymes.
Elles sont largement marginales.
Oui, mais elles sont 100% anonymes.
Bien sûr,
d'accord, elles sont utilisées notamment par des mafias, etc. Mais bon, peu importe.
Si elles sont anonymes, on ne sait pas si des mafias les utilisent par définition. Et deuxièmement, même si je demandais une rançon $1 million, je serais incapable de le blanchir puisqu'il n'y a pas la liquidité pour.
D'accord.
Donc elles existent, mais elles sont largement marginales et accessoirement interdites en Europe.
Bon, Jérôme Mathis, sur
la valorisation des cryptos actifs ou des crypto-monnaies.
Non, c'était surtout sur, encore une fois, on parlait des fantasmes, mais parce que peut-être que c'est ce qui crée cette situation. L'envolée des cours, et encore une fois, est-ce que tout le monde peut avoir des bitcoins? Est-ce que tout le monde peut acheter des crypto-monnaies? Est-ce que tout le monde peut s'enrichir à hauteur de centaines de millions de dollars en crypto-monnaies? Est-ce que tout le monde peut être un homme d'affaires et prospérer avec les affaires? Non.
Non, alors tout le monde peut bien sûr investir dans ces crypto-monnaies, tout le monde peut s'enrichir, mais tout le monde peut perdre aussi. Donc je vous citais le cas du Bitcoin, dont la valeur s'est largement appréciée au cours des dernières années. Je n'ai pas cité les monnaies que l'on appelle des dead coins, c'est-à-dire des jetons morts qui ont fait des crypto-monnaies qui ont simplement disparu et qui ne valent plus rien aujourd'hui. Et il y en a plusieurs millions. On estime que depuis 2021, il y a 7 millions de crypto-monnaies qui ont fait perdre en fait 100% de votre investissement. Donc vous avez statistiquement beaucoup plus de chances de perdre
que
en misant là-dessus que de gagner. Mais comme souvent, un peu comme avec les gagnants du loto, les projecteurs se braquent sur ceux qui s'enrichissent, mais on ne parle pas de tous ceux qui perdent. Et d'ailleurs, nous avons en France des instances comme l'Autorité des marchés financiers ou l'organe de la CPR de la Banque de France qui ont déjà publié des statistiques et qui nous disent que finalement les particuliers en France ont largement plus perdu que gagné en misant sur cet écosystème.
Alexandre Stachtenko, vous évoquiez justement ces fantasmes qu'ont la peau dure autour des bitcoins et des crypto-monnaies en général et qui créent peut-être le déchaînement de violence qui s'observe en France actuellement. Déjà, pourquoi en France? Pourquoi est-ce que, parce que, encore une fois, les crypto-monnaies, c'est un phénomène mondial. Pourquoi il y a justement ces fantasmes et est-ce que c'est qu'il y a un manque de communication de la part des autorités? On a toujours le sentiment qu'effectivement, il y a une part d'ombre, une part sombre des crypto-monnaies par rapport aux monnaies traditionnelles.
Alors, est-ce que en France? Non. Il y en a eu à l'étranger, il y en a eu dans divers pays. Maintenant, il y a une recrudescence en France. Ouais. Il y a une surreprésentation de la France qui est problématique, qui ne se justifie pas. Je ne suis pas convaincu que la réponse se trouve dans la crypto. Je pense qu'elle se trouve plutôt dans un problème politique plus large. Comment se fait-il effectivement qu'on en arrive à pouvoir faire des tentatives d'enlèvement en France tous les mois? Je ne pense pas que la crypto fasse partie de la réponse. Il y a des criminels qui, semblerait-il, se sentent suffisamment en impunité pour tenter des kidnappings au milieu de Paris à 8h30 du matin. Ça me semble être un problème qui dépasse la crypto. Donc, je n'ai pas toutes les réponses parce qu'elles sont politiques et que, évidemment, chacun aura sa grille de lecture là-dessus. Mais il y a effectivement une recrudescence en France, même si oui. C'est un phénomène mondial.
Mais alors, est-ce que ça se traduit un manque de communication encore une fois, ce phénomène qui est très nouveau. Hein.
Oui, ça fait 15 ans maintenant, donc c'est nouveau, mais c'est pas non plus...
Encore une fois, par rapport aux monnaies traditionnelles.
Bien sûr. Oh, elles sont pas si vieilles que ça non plus. Je pense que quand je parlais de fantasmes, et justement, je pense qu'il y a une double responsabilité, à la fois d'une partie substantielle des médias et une partie substantielle du monde politique. Pour les médias, c'est un petit peu différent parce que originellement, par exemple, on le disait, Bitcoin est traçable, mais dans ses premières années, ça avait beau être traçable, personne ne regardait. Donc pour beaucoup de criminels, effectivement, ou de déviants, sans être nécessairement des criminels, un des premiers usages de Bitcoin, c'était Julian Assange avec Wikileaks, parce qu'il s'était fait complètement censurer financièrement par les États-Unis. Mais un des usages suivants qui a fait beaucoup parler de lui en 2013, c'était la plateforme Silk Road, sur laquelle on pouvait acheter de la drogue, des armes, etc. en Bitcoin. Et en fait, cette image d'association ouais. entre drogue, armes, Bitcoin, etc., elle a juste perduré. C'est-à-dire que le logiciel du débat public, du traitement du sujet, ne s'est pas actualisé depuis 2013, et on continue de traiter Bitcoin comme si on était en 2013, c'est-à-dire quelque chose utilisé par quelques marginaux, des gens qui sont soit très innovants, geeks, soit effectivement criminels, alors qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est quasiment 500-600 millions de personnes sur Terre qui en ont. Bitcoin est le cinquième actif le plus valorisé de la planète. En France, c'est 10% des Français qui en ont, donc c'est plus du tout marginal. C'est complètement régulé en Europe, c'est à certains égards d'ailleurs plus que les banques. Donc en fait, on est sur deux mondes qui n'ont strictement rien à voir. Entre aujourd'hui et il y a 10 ou 15 ans sur Bitcoin, c'est le jour et la nuit. Et malheureusement, les fantasmes continuent d'être entretenus. Pour les politiques, c'est un tout petit peu différent. C'est que, en fait, ils font un calcul électoral assez cynique, à savoir que tant que Bitcoin est un petit sujet, ils ne perdent aucune voix à taper dessus. Même s'ils ne le travaillent pas et qu'ils racontent n'importe quoi. Et très souvent, malheureusement, ils racontent n'importe quoi, y compris des choses pas sourcées. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Il y a eu ce petit changement, notamment aux États-Unis, où ils sont un peu plus en avance, parce que c'est plutôt autour de 15 à 20% des Américains qui ont des cryptos. Et donc, Trump en a fait un argument de vente électorale, parce qu'il s'est dit, plutôt que de taper dessus, je rappelle qu'il y a 5 ans, il disait « j'aime que le dollar, le bitcoin, c'est nul », il s'est dit « mais non, en fait, je vais aller en faire un marché électoral comme les autres, et donc je vais m'adresser à ce public-là ». En France, on n'est pas encore arrivé là, mais c'est en train de bouger. Il y a quelques politiciens qui ont compris que maintenant, on avait passé cet effet de seuil, où si on dit du n'importe quoi sur bitcoin, on risque de perdre plus de voix que d'en gagner.
En même temps, vous citez les États-Unis, mais puisqu'on parle régulation ce soir, la régulation américaine pose question. Depuis l'investisseur de Donald Trump, il y a eu l'équipe de régulation qui a été remplacée. Jérôme Matisse, Alexandre Stachtenko nous dit, c'est le cœur de notre débat ce soir, c'est régulé les crypto-monnaies. Est-ce que c'est régulé et comment aujourd'hui ?
C'est une régulation, mais comme tout secteur, j'allais dire presque industriel, il y a une régulation en fait qui ne cesse d'évoluer. Donc la régulation d'abord, elle est là, il faut le rappeler, pour protéger les utilisateurs, les usagers, les investisseurs. C'est très important. On a tous des comptes bancaires, on a confiance dans notre système bancaire. Si jamais demain, votre banquier part avec la caisse, vous savez que vous serez dédommagé. Et quand bien même ce serait la banque qui ferait faillite, l'État français vous dédommagerait à hauteur de 100 000 euros sur un compte bancaire. Avec les crypto-monnaies, ce genre de protection n'existe absolument pas. Il n'y a pas d'assurance. C'est un système qui est en devenir. Je ne dis pas que ça n'existera pas. Mais c'est un système, c'est un écosystème, si vous voulez, qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de trouver des applications, notamment industrielles, qui s'étendent un petit peu à tous les secteurs. Et au fur et à mesure qu'il s'étend, la régulation vient s'adapter. Voilà, donc l'enjeu de la régulation, c'est de protéger. Bien sûr, il y a aussi les travers de la régulation. J'ai en face de moi quelqu'un qui travaille dans le secteur. Donc lui, la régulation, je pense qu'il en a marre, parce qu'il voit que c'est des contraintes qui lui sont posées, notamment à l'échelle domestique. Donc il est peut-être défavorisé par rapport à des concurrents à l'international. Et ça peut aussi empêcher de nouveaux acteurs de rentrer sur un marché et donc favoriser de grands acteurs qui se consolideraient et qui deviendraient peut-être de taille trop grande.
Comment vous définiriez la régulation aujourd'hui, Jérôme Matisse? Alors, quelle est-elle? Quel mécanisme existe aujourd'hui qui permette de réguler les crypto-monnaies ?
Bon, d'abord, les prestataires de services français sont obligés aujourd'hui, c'est depuis 2019, de s'inscrire auprès de l'autorité des marchés financiers. C'est-à-dire qu'ils doivent obtenir une autorisation par laquelle on va leur demander tout un tas de choses, notamment de certifier l'identité de leurs clients, au même titre que quand vous voulez ouvrir un compte bancaire en France, la banque vous demande de certifier votre identité. Il y a aussi des processus de certification que l'argent n'est pas utilisé à des fins de blanchiment, de financement du terrorisme, etc. Et puis, il y a aussi à l'échelle plus grande, à l'échelle européenne, même si la France est un petit peu précurseur dans la régulation, la France a aussi réussi à convaincre l'Union européenne d'harmoniser la régulation, parce que sinon c'est trop facile. Un service va plutôt aller déménager dans le pays d'à côté, et à l'ère du numérique, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, il y a une harmonisation. C'est ce qu'on appelle le règlement MiCA, qui harmonise les réglementations depuis 2024, voilà.
Mais qui est très embryonnaire, parce que
c'est entré
en vigueur en début d'année.
En 2024.
Et pour la France, ce sera effectif pleinement dans les mois qui viennent. Ça n'est pas encore vraiment.
C'est déjà effectif.
Mais c'est
en janvier 2026, c'est la date évoquée. C'est la clause de grand-père pour ceux qui ont déjà un enregistrement auprès de l'AMF. Mais depuis le 1er janvier 2025, on ne peut pas opérer en France si on n'a pas mis
ça. Ça se traduit comment pour vous, par exemple, Alexandre Stachtenko, pour Paymium ?
Pour Paymium, ça veut dire qu'on
a... Vous êtes le directeur stratégie de cette plateforme d'échange de Bitcoin.
Ça veut dire qu'on travaille avec l'AMF, la CPR, qu'on est régulé, on est contrôlé. On doit effectivement collecter l'identité des gens qui s'inscrivent sur la plateforme, faire des contrôles d'origine des fonds. Enfin, c'est comme une banque, avec à certains égards des contrôles qui sont parfois plus stricts que ceux des banques, ce qui n'est, à mon sens, pas justifié de par la proportion de transactions illicites qui est inférieure dans les cryptos, dans les monnaies traditionnelles, mais aussi par l'état de maturité du marché, qui évidemment est inférieur à une industrie bancaire qui a 150 ans pour la plupart des banques françaises et qui évidemment a eu le temps de construire autour de la régulation, ce qui n'est pas le cas pour les cryptos. Maintenant, la question plus générale, c'est effectivement, est-ce qu'on peut réguler les cryptos et est-ce que c'est régulé en France ? Il faut savoir de quoi on parle, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut réguler par exemple Bitcoin en tant que tel ? Non, de la même façon qu'on ne peut pas réguler Internet. Ce qu'on régule, c'est les responsables de traitement de données, c'est les entreprises qui travaillent autour du secteur, etc. Donc on a appris la même approche en Europe, c'est-à-dire de dire Bitcoin, il faut faire le deuil aux éditeurs qui nous écoutent, on ne peut pas réguler Bitcoin, c'est un protocole ouvert, open source, mondial, personne ne peut décider de contrôler tout seul Bitcoin, ça fait 15 ans que des gens essayent, ils n'y arrivent pas, la Chine a essayé de l'interdire, ça ne marche pas, donc maintenant il faut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est l'Europe qui dit, bon, bah, je ne peux pas réguler Bitcoin, en revanche, je peux contrôler les portes d'entrée et de sortie. Et ces portes d'entrée et de sortie, c'est par exemple Paymium, par exemple d'autres. Il y a une centaine, un peu plus de PSAN, donc de prestataires de services sur actifs numériques en France, qui sont régulés auprès de l'AMF. Et pour ceux qui ont été enregistrés à partir de 2019, ils disposent en fait de plus de mois pour changer de régulation, pour passer du régime français au régime européen. Mais pour ceux qui n'étaient pas enregistrés, là, depuis déjà cette année, ils doivent être absolument agréés auprès de l'AMF, mais sur le régime européen. Donc, toute entreprise qui opère en France, soit c'est illégal et elle le fait depuis l'étranger, et l'AMF ne peut pas fermer les sites web ouverts aux Bahamas, soit elle a une filiale et c'est qu'elle est enregistrée quelque part et elle le fait de façon régulée. Et je rajouterais en terminant, c'est que il faut pas non plus avoir une vision, je dirais, quasiment performative du réel, c'est-à-dire cette forme de conviction qu'en créant la norme, le réel va s'adapter, parce que c'est malheureusement ce qu'on a trop souvent en Europe et ce qu'on a encore une fois sur ce sujet-là aussi. En créant cette régulation, on a malheureusement un très bon cas, mais on n'a aucun tableau dedans parce que précisément les entreprises étrangères dans ce secteur assez qui est en train de maturer, en fait elles ont pu se développer sans contrainte, et donc maintenant elles viennent en France profiter d'un cadre qui empêche des petits de les concurrencer, mais les Français malheureusement aujourd'hui passent majoritairement par des plateformes qui n'étaient absolument pas régulées il y a encore 2-3 ans.
C'est intéressant, ça renvoie au débat en général sur les normes
et
qui pose même la question de la régulation de la liberté d'expression au sens large. Hein.
Tout à fait.
Peut-on réguler les crypto-monnaies ? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour après cet enchaînement d'agressions qui se sont produites en France ces derniers mois. Deux en l'espace d'un mois en plein cœur de Paris. Deux enlèvements ou tentatives d'enlèvement. Mes deux invités sont Alexandre Stachtenko, qui est directeur de stratégie de Paymium, plateforme d'échange de Bitcoin, conférencier et co-auteur de l'ouvrage Bitcoin, le choc géopolitique, et Jérôme Matisse, professeur en économie et en finance à l'Université Paris Dauphine PSL. Alors on a évoqué la régulation qui existe déjà aujourd'hui aujourd'hui concernant les crypto-monnaies. Vous les avez évoquées, Jérôme Mathis, il faut s'inscrire auprès de l'autorité des marchés financiers, certifier qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, que cet argent ne sert pas à financer le terrorisme. Et puis, il y a cette harmonisation européenne qui est embryonnaire, elle n'est pas encore parfaite, ce MiCA, Market in Crypto Assets. Ma question, Jérôme Mathis, après ce qu'a dit Alexandre Stachenko, est-ce que le niveau de régulation actuel est suffisant selon vous? Et déjà, est-ce qu'il est respecté?
Oui, alors d'abord, il est respecté, puisque si vous êtes un opérateur français, si vous enregistrez pas auprès de l'AMF, vous ne pourrez pas... Donc, je voudrais juste tempérer un petit peu ce qui a été dit sur le fait que, par exemple, la Chine interdit les bitcoins et ça ne marche pas. Je ne suis pas du tout d'accord, en fait, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui interdisent les crypto-monnaies. La Chine s'en est un. Il y a le Maghreb aussi, Algérie, Maroc, Tunisie, etc. Est-ce que ça ne marche pas? C'est comme si je vous disais, en France, la vente d'armes est interdite, mais ça ne marche pas. La preuve, il y a des kalachnikovs dans les cités. Oui, mais enfin, le commun des mortels n'a pas accès à cela. Donc, quand on interdit quelque chose, il y a potentiellement des sanctions avec. Si j'étais en Chine, à titre personnel, j'aurais peur de traiter en bitcoin. Oui, on trouve des Chinois qui continuent de le faire, mais c'est à leur risque et péril. Donc, pour revenir sur votre question, qui était, excusez-moi.
Est-ce que le niveau de régulation actuel est suffisant?
Oui,
la question, c'est peut-on réguler les bitcoins?
Donc, oui,
ils sont régulés aujourd'hui.
Bien
est-ce
sûr,
que c'est suffisant aujourd'hui pour l'encadrement des crypto-monnaies?
Encore une fois, c'est un arbitrage entre contraintes que l'on impose aux agents du secteur, aux professionnels qui font partie quand même de gens qui innovent. On veut quand même aussi, vous savez que l'innovation en économie, c'est la source de la croissance économique. Donc, il ne s'agit pas de mettre trop de bâtons dans les roues à ceux qui veulent innover. Sinon, ensuite, ils vont ailleurs, à l'étranger, et c'est là-bas qu'ils créent la valeur. Donc, c'est un petit peu le problème qu'il y a actuellement avec l'écosystème, c'est que les grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies ne sont pas françaises. Elles sont étrangères. Donc, il faut à la fois protéger et en même temps, il ne faut pas non plus trop taper sur ceux qui veulent innover en France. Je pense que alors, il y a un autre aspect de la régulation que je n'ai pas mentionné, mais qui intéressera certainement nos auditeurs, c'est l'aspect de la fiscalité. Si vous faites des plus-values en Bitcoin ou en d'autres crypto-monnaies, vous êtes taxé à 30%. Hein, cette idée qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Il y a quelques années, vous pouviez échapper à l'impôt.
Ça n'a pas duré longtemps en France.
Ça n'a pas duré
la
longtemps.
La France, est quand même, culturellement, on a réussi à fiscaliser Bitcoin avant de le définir. C'était d'ailleurs fiscalisé à des taux qui pouvaient atteindre plus de 60%. Le passage à la flat tax, donc le prélèvement forfaitaire unique à 30%, date de 2018, mais il est fiscalisé en France depuis 2014 sur le barème de l'impôt sur le revenu.
Alors, vous trouvez que la régulation elle est trop forte en France, par exemple, concernant les crypto-monnaies?
Alors, moi, j'ai un propos plus général sur la régulation que j'ai déjà tenu juste avant, mais que je peux repréciser. En particulier, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en Europe est devenue une folie absurde. Aucune étude n'est faite sur l'efficience de ces mesures. On en est à notre sixième package anti-blanchiment qui a été encore voté l'an dernier. Tous les paragraphes de proportionnalité, de sources qui sont mis dans ces régulations sont en règle générale complètement factices. Ils n'ont aucune source, ils ne disent rien. L'efficacité n'est pas prouvée. Les seules études qui existent sur le sujet de la lutte anti-blanchiment au niveau mondial, il y en a une qui s'intitule « La lutte anti-blanchiment, candidat au titre des politiques publiques les plus inefficientes jamais inventées ». Pourquoi ? Parce qu'on rattrape quelque chose autour de 0,5% des flux illicites et qu'en Europe, par exemple, les coûts de la régulation imposée au système bancaire et financier, c'est autour de 144 milliards d'euros. Donc en fait, c'est une réglementation qui a pour origine un groupe qui s'appelle le groupe d'action financière, qui est un groupe international qui travaille justement à créer des nouvelles normes de lutte anti-blanchiment, mais qui a pour mauvaise idée de ne pas être tenu aux exigences démocratiques. Donc, en fait, l'Europe, notamment par peur d'être mise sur des listes grises, passe son temps à juste faire boîte d'enregistrement des normes du GAFI, donc du groupe d'action financière, alors même que je pense qu'une bonne partie de ces normes, au-delà de ne pas être efficientes, ne sont absolument pas conformes avec les libertés fondamentales.
Mais alors, quel cadre vous suggériez comme évolution pour les crypto-monnaies aujourd'hui, pour qu'elles s'inscrivent davantage dans la durée? Est-ce qu'on peut jouer, par exemple, parce que ce qui définit les crypto-monnaies, c'est quand même leur volatilité, puisque ça fonctionne principalement sur l'offre et la demande. Est-ce qu'il y a la possibilité de limiter cette volatilité? Est-ce que, par exemple, allez, le tiers de confiance, ta banque centrale, qui évidemment est absente des crypto-monnaies, on peut imaginer que ce soit un apport, soit quelque chose qui existe? Ou est-ce que ce serait la fin des crypto-monnaies? Mais comment les accompagner dans le temps ?
Ça peut pas exister. Enfin, là, on parle des crypto-monnaies, c'est beaucoup trop large. C'est-à-dire que dans les crypto-monnaies, il y a des arnaques, il y a des projets d'entreprise, il y a des œuvres d'art numérique, il y a des jetons de paiement internationaux qui s'appuient sur le dollar. Donc, en fait, je ne peux pas répondre à la question pour les crypto-monnaies, puisque si on prend l'exemple des stablecoins, il y a des entreprises qui...
Donc, les stablecoins, c'est des crypto-devises qui sont...
Toujours stables.
Pour l'essentiel, adossées au dollar.
Pour la très, très grande majorité, effectivement, et qui ont pour objectif d'être utilisées surtout comme des moyens de paiement.
Donc, ça veut dire qu'il y a des crypto-monnaies qui sont beaucoup moins stables.
Elles sont alors stables par rapport à quoi, c'est toujours la question. Là, en l'occurrence, effectivement, si votre étalon de mesure c'est le dollar et que ça vaut toujours un dollar, c'est particulièrement stable. Maintenant, moi, ce que je regarde, par exemple, avec mon prisme de long terme, c'est que le dollar s'effondre contre le Bitcoin depuis 15 ans. Voilà. Donc chacun évidemment a sa perspective. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux pas répondre
à la
question.
Bitcoin, c'est aussi les yo-yo. Il a pas toujours.
Tendanciellement,
il n'a pas cessé de progresser depuis 10 ans.
Non, mais tendanciellement, il est aussi. Et toute personne qui en a depuis, qui l'a acheté et gardé plus de 3 ans est gagnant. Donc c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est cette volatilité, elle diminue. Tendanciellement, c'est pareil. Là, sur Bitcoin, on a rejoint à peu près le niveau de volatilité des actions américaines. Actions qui elles-mêmes trichent, hein, puisque quand elles sont volatiles, il y a des suspensions de cotation. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de ne pas être volatile quand on n'est pas coté et qui ne cotent pas le week-end lorsqu'il y a des événements comme des événements géopolitiques. Donc, cette volatilité, elle existe sur Bitcoin. Elle se réduit tendanciellement tous les ans. Et on va évidemment, plus le marché mature, plus elle va se réduire. Donc, est-ce qu'on peut mettre une banque centrale dans Bitcoin ? Bah non, c'est le principe de Bitcoin. Mm-hmm. C'est que c'est une monnaie qui fonctionne sans banque centrale. Donc, c'est même pas une question de est-ce qu'on peut se concerter au G20 pour mettre une banque centrale. C'est que ça n'a pas de sens de faire une concertation au niveau G1. On ne peut pas. Ils n'ont pas le pouvoir. Le G20 sortirait une décision qu'il faut rajouter une banque centrale dans Bitcoin, que ça ne changerait strictement rien. Comment ils le feraient ? Il n'y a pas de mécanisme. C'est open source, c'est mondial. Il faut un consensus de tous les acteurs, etc. etc.
Jérôme Mathis, Alexandre Tchatchenko évoquait justement le Bitcoin à l'épreuve du temps qui finalement le permet de se fortifier. Mm-hmm. D'une certaine manière. Est-ce que vous diriez que le temps ancre un petit peu la stabilité du Bitcoin, des crypto-monnaies en général, ou est-ce que le temps risque l'essoufflement de ces crypto-monnaies ?
Alors, pour le
est-ce
cas...
que c'est quelque chose qui peut fonctionner par, encore une fois, la nouveauté ?
Oui, en fait, pour le cas du Bitcoin, là aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça reste quelque chose de très volatile. Moi, je déconseillerais quelqu'un d'accepter un salaire en Bitcoin, par exemple. Ça n'a pas de sens. C'est beaucoup trop volatile. Pourquoi ? Ben justement, parce qu'il n'y a pas de banque centrale. Après, c'est dans l'ADN du Bitcoin, très bien. Mais il faut accepter que le cours joue aux montagnes russes au gré de l'offre et la demande.
Au Venezuela, ils ont une banque centrale. J'accepterai pas du Bolivar. Hein.
Alors, tout à fait. Effectivement, les crypto-monnaies sont parfois utilisées comme une forme d'assurance par des gens qui sont dans des économies dont les banques centrales conduisent des politiques monétaires tout à fait inconséquentes. C'est le cas du Venezuela. En 2024, les prix ont fait plus que doubler. Au Zimbabwe, ça a été encore pire. Les prix ont quadruplé et les populations n'ont pas toujours accès à des devises fortes comme l'euro, le dollar ou d'autres. Et donc, elles se tournent vers ces bouées de sauvetage, mais qui, encore une fois, si on pense le Bitcoin comme bouée de sauvetage, c'est une bouée qui se gonfle et se dégonfle au fil des mouvements de marché, de l'offre et de la demande. Et puis, vous dites à la fois la volatilité s'ancre. Enfin, il y a de moins en moins de volatilité, les cours se stabilisent. Il me semble quand même que la première raison actuellement, notamment en France, de détention d'une crypto comme le Bitcoin, c'est la spéculation, c'est-à-dire des gens qui en détiennent avec l'espoir de pouvoir les revendre à un prix supérieur ultérieurement.
Eh bien, pour répondre à la question, oui, on peut réguler les crypto-monnaies et elles sont régulées aujourd'hui, mais évidemment, ça reste, et je vais prendre cette métaphore, une bouée de secours qui se gonfle et se dégonfle. Merci beaucoup Jérôme Mathis, professeur en économie et en finance à l'Université Paris-Dauphine PSL, et Alexandre Tchatchenko, merci, directeur de stratégie de Paymium, qui est une plateforme d'échange de Bitcoin. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Hélène Avril à sa réalisation.
Merci. RFI.
Allez, dans une minute, ce sera le grand journal du soir. On se projette évidemment sur le programme qui suit. 30 minutes plus tard, Afrique Soir à la première édition. Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une à suivre tout à l'heure le début des fouilles archéologiques sur le site Tiaroy au Sénégal.
L'opération vise à déterminer le nombre de tirailleurs africains tués par les forces coloniales dans ce camp de transit de la banlieue de Dakar le 1er décembre 1944. Nous irons ensuite au Mali où le président de la société civile a été enlevé lundi soir, Sidi Barre. burqa a été enlevée en plein centre-ville par des assaillants non identifiés.
Autre titre, la RDC et la condamnation de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, Augustin, à 10 ans de travaux forcés.
Oui, il est accusé de détournement de plus de 245 millions de dollars des fonds destinés au projet d'un parc agro-industriel dans la périphérie de Kinshasa, la capitale. La défense de Matata Ponyo dénonce un jugement illégal.
Eh bien, à tout à l'heure, on vous retrouve dans 30 minutes. Pour l'heure, c'est le grand journal du soir.